marche du monde. Valérie Nivelon.
Suite de la marche du monde consacrée au nouveau documentaire de Gilles Perret, Les jours heureux, c'est le joli nom d'une utopie devenue réalité grâce aux résistants français.
Les résistants étaient une petite minorité, pas forcément des gens très jeunes. Ils n'étaient pas encore passés à travers le moulinage politique qui fait que des gens qui sont au gouvernement sont plus prudents, n'osent pas faire de grandes proclamations, sinon on les accuse d'être idéalistes. À cette époque, c'était une accusation que l'on acceptait volontiers. Oui, il fallait être idéaliste, il fallait même être utopiste.
Stéphane Hessel, l'une des grandes voix de votre film « Les jours heureux, Gilles Perret », il évoque l'idéalisme du Conseil national de la Résistance. Alors, quel est cet idéal défendu par les 16 membres du CNR, dont plusieurs témoignent dans votre film ?
Comment on pourrait définir cet idéal ? Je dirais, c'est un idéal, du vivre ensemble. C'est-à-dire que tout le programme est tourné autour de cette notion qu'on ne peut pas laisser uniquement les intérêts privés, la loi du marché, ou en tout cas toutes ces forces de l'argent, comme il disait, diriger l'État. Et donc, il faut reprendre notre avenir en commun.
Et l'idée d'un État protecteur avec sécurité
bien
sociale.
Bien sûr, c'est remettre l'État à sa place, là où on avait un peu tout abandonné ça dans les années 30, avec la crise financière, avec cette presse qui s'était vautrée dans la collaboration, avec toutes ces forces d'argent qui avaient entre autres alimenté certaines ligues fascistes. Enfin, donc du coup, on voulait plus de ça. Et donc, il fallait reprendre en main tout ça, donc sur des grands axes, sur les questions énergétiques. On dit, il faut que ça, ce soit à la disposition de l'État et pas du service privé, nationalisation des banques, parce qu'on avait vu ce que ça voulait dire quand les banques privées, tellement elles avaient failli dans leur rôle et comment elles avaient collaboré, la sécurité sociale, enfin créer un État social et reprendre en main collectivement l'avenir.
Alors cette histoire nous est racontée par les acteurs eux-mêmes, Raymond Aubrac, Stéphane Hessel, Daniel Cordier et d'autres, mais aussi par les archives, très rares. Il y a une scène qui a dû être très émouvante pour vous, Laurent Douzou, historien et spécialiste de la Résistance, et quand vous parcourez les archives du CNR de 1944. Racontez-nous ça.
Eh bien, Gilles Perret a retrouvé la trace de ces archives qu'un libraire avait achetées. C'est le fonds Debus-Bridel, qui était un des membres du Conseil national de la Résistance. Et donc, ce libraire avait acquis ces archives. On les a, en effet, il nous les a montrés. Et c'est vrai que c'est émouvant parce qu'il y a une disproportion incroyable entre le caractère évanescent, léger de ces feuilles, c'est-à-dire c'est du papier pelure, c'est tapé à la machine, c'est de l'encre que le papier a bu. Donc c'est tout ça, c'est assez dérisoire. Et en même temps, ça apporte une espérance qui est sans commune mesure avec ce qu'on a entre les mains. Donc c'est quand même très très étrange, ce sentiment qu'on a de ce fossé entre les deux. Et donc c'est vrai que tenir ces feuilles entre les mains, mais ça c'est quelque chose que je connais, c'est-à-dire quand vous allez aux archives, par définition, c'est ce que vous éprouvez, c'est-à-dire le contact immédiat avec les archives, et en même temps vous savez la difficulté qu'il y aura ensuite à les faire parler en quelque sorte, c'est-à-dire en tirer quelque chose. L'émotion c'est bien, mais il faut en faire quelque chose.
Des archives, vous l'avez dit, sauvées par Jacques Debus-Bridel.
Les travaux du CNR, on peut les suivre pour l'année 1944 ici. J'ai le privilège d'en conserver les archives, je crois que ce soit les seules qui existent à l'heure actuelle. Je recevais les miennes, naturellement, et je les brûlais, suivant les consignes reçues, et mon ami Laniel m'avait demandé, car il était très traqué, très surveillé comme ancien ministre, de bien vouloir recevoir les siennes aussi et de le tenir au courant. J'avais donné comme consigne à mon ami les détruire, il ne les a pas détruites, très imprudemment il les a gardées, les voici, elles sont là.
Le Conseil national de la Résistance a perdu son père fondateur Jean Moulin, éliminé par les nazis le 8 juillet 43. Mais le Conseil national de la Résistance n'est pas mort. Écoutez l'un des proches de Jean Moulin, Pierre Villon.
Je pensais qu'il fallait d'abord savoir comment on s'en sortirait de cette occupation. Et je me suis dit qu'il fallait saisir l'occasion et ajouter à ce programme d'après-guerre un programme d'action immédiate.
Jacques Debus-Bridel.
On ne peut pas, humainement parlant, mobiliser des jeunes, car c'est les jeunes qui ont mobilisé pour l'armée secrète, etc.
Elle est gardée au garde à vous pendant des années et des années. Il fallait leur donner du travail à faire.
Donner du travail aux jeunes combattants de l'ombre. Qu'est-ce que ça signifiait, Laurent Douzeau, concrètement?
Ça voulait dire, au fond, vous pouvez pas dire à des gens, vous n'avez même pas à leur dire, vous pouvez pas accepter que des gens s'engagent corps et âme dans une action où ils risquent leur peau jour après jour, sans contrepartie, en quelque sorte, sans espérance, sans perspective. Donc c'est ça que ça veut dire. Mais je reviens sur ce que disait Pierre Villon. C'est très intéressant parce qu'il insiste sur l'action immédiate.
Oui.
Et dans le programme du CNR, il y a deux volets très distincts. Il y a un programme d'action immédiate, c'est-à-dire l'insurrection qu'on va organiser ou qu'on souhaite organiser à la Libération. Et puis, il y a les mesures à prendre après-guerre. Et paradoxalement, le Parti communiste et Pierre Villon insistent sur le premier volet, c'est-à-dire l'action immédiate, pour essayer de traquer ce qu'on appelle les jourgistes, les naftalinards, ceux qui veulent pas agir tout de suite. Et c'est les socialistes qui mettent plutôt l'accent sur ce qui nous paraît à nous aujourd'hui à distance le plus intéressant, c'est-à-dire la partie qui organise la vie économique, sociale, politique d'après-guerre. Donc là, il y a une espèce de bataille à front renversé parce que les communistes veulent faire sortir du bois les gens qui sont trop calmes, qui se disent attendons le débarquement puis on fera quelque chose. Donc là, il y a un enjeu particulier.
Gilles Perret.
Aussi, la deuxième partie ne va pas sans la première, c'est-à-dire que les communistes estiment aussi que c'est si on se bat et si on se bat sur le territoire qu'on aura la légitimité et la force, justement dans le rapport de force, pour pouvoir imposer la deuxième partie qui est le programme politique.
Et cette action de la résistance intérieure, cette guérilla urbaine, elle est violente, elle est dangereuse, vous l'avez souligné, et à tout moment on risque de se faire arrêter par la Gestapo et de se faire torturer, notamment par le nazi Klaus Barbie à Lyon. C'est l'expérience vécue par Léon Landini, combattant des FTP-MOI.
Ils nous ont emmenés à la Gestapo, là les coups ont commencé à pleuvoir de plus en plus fort. Quand Barbie est rentré dans la pièce, ça fait du silence dans la pièce, parce que les Français nous frappaient, les Allemands étaient assis à une table. Bon, j'ai eu un enfoncement de la boîte crânienne, des vertèbres écrasées, testicules écrasés. J'étais à moitié évanoui, mais j'essayais tout de même de suivre ce qui se passait autour de moi. Il m'a souffleté, il m'a donné des coups de pied. Il m'a dit, quel est ton chef? J'ai dit, moi, j'ai pas de chef. Il me dit, eh ben, si tu veux pas parler, on va te faire passer à la baignoire. De mes camarades du bataillon FTP-MOI Carmagnol à Lyon ont été arrêtés, torturés et morts sous la torture. Pas un seul n'a parlé sous la torture. Alors, que ce soit clair, ça n'était pas de l'héroïsme. C'était cette conviction absolue que nous nous battions pour un monde meilleur, que les sacrifices que nous consentions, ceux qui viendraient derrière nous allaient en profiter.
Nous avons retrouvé aujourd'hui les droits de notre vie. Le droit de rire, le droit de parler, le droit de penser, le droit de prier, le droit d'être des hommes libres.
Nous étions emprisonnés, on a entendu des coups de feu passer, tirer, et on a compris que la libération était là. Et on a commencé à sauter, à s'embrasser, en disant « ça y est, on va sortir de prison, c'est la fin ». Et j'ai vu les Allemands qui allaient vers la porte, sac au dos et mousqueton en bandoulière. Ensuite, dans la prison, alors que les Allemands étaient en train de sortir, toute la prison a chanté la Marseillaise et toute la prison a chanté l'International. J'ajouterai que tous les prisonniers n'étaient sans doute pas des communistes, mais que l'International, c'était véritablement un défi lancé à l'armée allemande en leur disant « vous avez voulu nous dompter, eh bien vous voyez, nous, on vous crache dessus ».
Extrait des Jours Heureux, c'est le film de Gilles Perret que nous découvrons sur RFI. Léon Landini sort de Montluc, la prison politique des nazis. La France est libérée et l'enjeu pour les résistants est maintenant politique. Raymond Aubrac.
Quand De Gaulle prend le pouvoir, on savait ce qu'il allait faire. Il allait appliquer, dans toute la mesure du possible, le programme du CNR, ce qui s'est passé.
Le général de Gaulle va parler à la France. Et Paris tout entier l'écoute et l'entend, groupé autour des haut-parleurs qui vont porter la voix désormais familière à la ville tout entière, au pays et au monde.
La France, elle veut faire que dans tous les cas, l'intérêt particulier cède devant l'intérêt général, que les grandes sources de la richesse commune soient dirigées et exploitées non pas pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous.
Charles de Gaulle incarne cette France libre, la libération. Il va mettre en place le programme du Conseil national de la résistance. Gilles Perret, alors avant de revenir plus en détail cette fois sur ce programme, quelle est votre propre vision de Gaulle?
Je vais reciter une citation de Raymond Aubrac qui dit qu'en 44, on ne sait pas si De Gaulle est quelqu'un de droite ou quelqu'un de gauche, parce que Raymond Aubrac estime qu'il y a deux De Gaulle. Il y a le De Gaulle de 58 et il y a le De Gaulle de 44. Là, je crois que De Gaulle était quelqu'un qui avait un sens pour l'État, pour le bien commun à ce gaullisme. Et quand en 44, il fait cette déclaration en disant que dans tous les cas, il faut que l'intérêt particulier cède le pas à l'intérêt général, on voit bien que à partir de ce moment-là, des gaullistes sont capables de signer le programme du Conseil national de la résistance, qui est quand même fortement influencé par les forces progressistes, socialistes et communistes. Et donc voilà, je pense qu'il est dans cet état d'esprit-là, et c'est vrai que ça fait sourire quand on cite ça, que l'intérêt particulier cède le pas à l'intérêt général, vis-à-vis de, par exemple, de ceux qui se revendiquent du gaullisme aujourd'hui.
Alors Gilles Perret, très concrètement, on l'a dit, la sécurité sociale, mais aussi la retraite par répartition, mais aussi des mesures donc économiques très larges sur les nationalisations, etc. Qu'est-ce qui vous semble le plus important dans ce programme du Conseil national de la résistance?
Bon, sans aucun doute, avec le regard d'aujourd'hui, c'était quand même la sécurité sociale qui a été donc créée, mise en place par le ministre communiste Ambroise Croizat, qui a aussi disparu de l'histoire, malheureusement. Je ne sais pas si on peut trouver une mesure plus humaniste que ça. Et le constat de voir que finalement très peu de gens connaissent la provenance de la sécurité sociale, c'est quand même assez affolant, quoi.
On est dans une France dévastée, meurtrie. Ce programme du CNR est un programme d'intérêt général, c'est l'effort de chacun au service de tous, disait le général de Gaulle. Il y a là, dans cette histoire française, de la droite française du gaullisme, Laurent Douzou, une dimension sur laquelle il faut revenir. Je veux dire, Aubrac dit, attention, de Gaulle, c'est pas un marxiste. On est dans une attitude de circonstance où on est de la part de Gaulle, dans une idéologie politique qui est celle qui va être celle de la Ve République, créée en 58.
Je crois qu'il faut pas avoir en ligne de mire la Ve République de 58, parce qu'à ce moment-là, on superpose au De Gaulle de 44 celui de 58, ce que faisait Raymond Aubrac, parce qu'il avait vécu cette histoire. Mais si on veut comprendre ce qui se passe en 44, faut éliminer 58 de notre champ de vision. Et faut se dire deux choses. Il y a, de la part du général De Gaulle, un pragmatisme fort qui est que il y a des mesures à appliquer, qu'il y a unanimité pour les appliquer, et que lui, qui est pas du tout un marxiste, mais un bon colbertiste, pense que l'État doit détenir des leviers de commande. Donc ça, c'est très clair. Mais en même temps, le discours de Chaillot du 12 septembre 44 que vous avez diffusé, il rend un hommage vibrant au CNR et aux résistants, mais il dit l'ordre doit revenir. C'est-à-dire qu'il y a, le général de Gaulle avance sur deux pieds. L'un, c'est on va mettre en œuvre ce programme. L'autre, c'est merci aux résistants pour ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, ils rentrent dans le rang. On dissout les FFI. Ceux qui veulent continuer à se battre entrent dans l'armée. Autrement dit, l'État reprend son rôle. Et ça, ça a été assez mal vécu par les résistants.
L'après-guerre, c'est aussi les règlements de compte et la dénonciation des scandales, de la collaboration, comme en atteste cette archive du Parti communiste présentée dans le film de Gilles Perret.
Voilà où se cachent aujourd'hui ceux qui s'enrichissent de la sueur du peuple, ceux qui sabotent la renaissance de notre pays.
La collaboration rapporte. Qu'importe aux manias des houillères de livrer à Hitler le charbon de la France, les dividendes augmentent.
Que les têtes des traîtres tombent, parce que c'est la justice.
Ce sont les devins d'ailes du comité des forges, organisme de trahison la plus monstrueuse que la France ait jamais connue. Ce sont les deux Yarimov, maîtres des charbonnages de France. Ils s'appellent aussi Louis Renault, qui avant de mourir a touché 6 milliards de francs pour ses 4 ans de fourniture d'armement aux ennemis de la France et de nos alliés. Ce sont encore les hauts et puissants seigneurs du Crédit Lyonnais, du comptoir d'escompte, de la Société Générale, de la Banque nationale du commerce et de l'industrie, puisque ces quatre banques ont annoncé publiquement le 24 octobre 1942 leur mise à la disposition de l'industrie allemande.
Vous écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Niblon.
Je m'adresse à l'historien Laurent Douzou. Ce sont des accusations portées par des communistes ou ce sont des accusations qui croisent la réalité de ce que ces gens qui sont accusés ont fait?
Les deux, en réalité. C'est par là qu'il y a une collaboration économique très, très profonde. Donc là-dessus, il y a à mon avis pas de débat. En même temps, vous retrouvez là une thématique communiste classique qui est celle des 200 familles, celle du grand capital, etc. Bon, qui n'est pas fausse, mais qui appartient à la rhétorique communiste. Donc en réalité, il y a superposition de deux réalités. Il est bien clair que là, on voit le Parti communiste à l'offensive, c'est-à-dire que le Parti communiste, au fond, développe la vision d'une résistance qui aurait été une résistance de la classe ouvrière, la bourgeoisie ayant été compromise. Voilà le schéma, grosso modo, que délivre ces extraits.
En tout cas, on est après-guerre et il faut remettre la France en ordre, comme le rappelle Raymond Braque.
On a nationalisé les grandes banques, non pas pour appliquer des idées venant de Proudhon ou de Karl Marx, mais parce que les grandes banques, dans les années précédentes, c'était mise au service de la collaboration et des Allemands. Quand j'ai mis mon nez dans la situation de Monaco au moment de la libération, c'était puant. Deux ou trois grandes banques françaises avec des grandes banques allemandes recevaient les produits des pillages allemands dans les familles juives ou dans les entreprises et les transformaient en devises étrangères. Pour le compte du Reich. Tout le monde le savait. Et De Gaulle le savait aussi. De Gaulle n'était pas un révolutionnaire. De Gaulle, ce n'était pas un gars qui voulait établir les soviets. C'était un homme d'ordre. Dieu sait s'il répétait à tous ses collaborateurs, y compris moi, au Braque, l'État, etc., l'ordre, etc. Mais il savait tout ça.
De Gaulle applique le programme économique et social du Conseil national de la Résistance, naissance de la sécurité sociale, retraite par répartition, liberté de la presse, un système social français qui correspond aux 30 glorieuses et qui est né dans la France de la colonisation. Alors ça, c'est une dimension que vous n'abordez pas du tout dans votre film, Gilles Perret, comme si la France de 45, c'était la France de l'Hexagone. Pour quelle raison ?
Parce que cette question-là n'a pas été abordée par le Conseil national de la Résistance, c'est-à-dire que la question coloniale n'apparaît pas dans le programme et pas beaucoup dans les discussions. Mais je crois que dans cette période-là, alors peut-être que Laurent Douzou est plus armé que moi pour répondre, mais je pense que cette question-là, même chez les communistes ou les forces progressistes, on disait qu'il fallait améliorer le sort des indigènes, comme ils disaient, mais la question de diviser l'Empire n'était pas à l'ordre du jour.
C'est aussi la question du financement, parce que ce modèle social français, il a quand même profité largement des richesses de l'Empire. Laurent Douzou.
Oui, il profite des richesses de l'Empire, évidemment, mais ce que dit Gilles Perret est vrai, c'est pas une question qui se pose, en réalité, aux membres du CNR. Encore que, quand on regarde bien le programme, il est mentionné qu'on doit pratiquer une extension des droits politiques, économiques des peuples indigènes. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, on en parle, mais c'est, sur l'ensemble du programme, c'est léger, je vous le conseille.
Aubrac dit dans votre film que cette question de la décolonisation, justement, n'a pas pu s'inscrire dans les débats du CNR.
Oui, il dit que c'est ce que la droite a remporté, c'est-à-dire que mais ça, c'est la version de Raymond Aubrac.
Et en plus, Raymond Aubrac a toujours eu un très fort attachement aux questions d'anticolonialisme qui n'était pas très partagé à l'époque. Donc je pense que Raymond Aubrac dit ça dans le film, il le dit nonagénaire et ayant consacré une partie de sa vie à ces questions. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai pour 44.
Ce modèle français existait pendant 30 ans, mais depuis les années 80, l'État ne nationalise plus, l'État privatise.
Première entreprise privatisée, Saint-Gobain. Les grandes sociétés nationalisées à la Libération devraient suivre ainsi qu'une ou plusieurs chaînes de télévision.
Édouard Balladur l'a annoncé, la vieille dame nationalisée en 1945 sera privatisée parce que le gouvernement veut, dit-il, changer les règles du jeu de notre économie.
Il s'agit d'abord des trois banques nationalisées à la Libération, la Société Générale, le Crédit Lyonnais et la Banque Nationale de Paris. Ensuite, des trois compagnies d'assurance nationalisées en 1946.
Le ministre de l'économie n'est pas opposé à l'ouverture du capital de France Télécom.
Le gouvernement actuel ne revient donc pas sur la décision du gouvernement Juppé et sur les engagements pris en ce sens à Bruxelles.
Gilles Perret, vous posez la question dans votre film de l'héritage du Conseil national de la Résistance. Vous interrogez les politiques jusqu'au président Hollande et vous leur demandez comment, au fond, on peut lutter contre le libéralisme économique. Est-ce que les réactions des politiques que vous recueillez sont finalement définies par leur famille politique ?
Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que finalement, cette idéologie néolibérale qui déferle sur la planète et sur la France, ça, il y a quand même une pensée derrière. Ça vise bien à déconstruire tout cet état social et tout ce qui a été mis en commun au moment de la libération. Donc, il y a vraiment une pensée politique qui a été relayée par les partis de droite, par les idéologues de la droite dans un premier temps, mais on entend bien dans l'archive que les gouvernements de gauche ont été à la manœuvre de la déconstruction autant que les gouvernements de droite. Donc les responsables politiques que j'interviewe aujourd'hui sont assez mal à l'aise par rapport à ça.
Certains sont très agacés d'ailleurs.
Très agacés parce qu'on aimerait tellement que cette histoire-là reste dans le passé et puis que ce soit une belle histoire de résistants forts et courageux, mais quand on met en parallèle les valeurs qui étaient portées à l'époque, ces valeurs elles sont toujours actuelles, elles doivent éclairer à mon avis le monde d'aujourd'hui comme le monde de demain. Et ça, ils sont très 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 embêtés parce que justement, si on regarde les actes que ces gens-là ont commis, ou en tout cas que leurs partis politiques ont commis par rapport au programme du Conseil National de la Résistance, c'est assez assassin. Mais en même temps, ça les empêche pas de mentionner dans leurs discours ces programmes politiques. Donc c'est pour ça que moi, ça m'intéressait justement d'aller les voir et de leur demander en quoi ils s'estimaient légitimes de mentionner le programme du Conseil National de la Résistance dans leurs discours à partir du moment où ils ont participé à cette déconstruction.
Alors l'héritage du CNR, vous le montrez, on le retrouve plutôt dans la société civile, dans l'engagement politique des citoyens, notamment sur ce plateau d'Aiglières, dans les Alpes, où Stéphane Hessel a initié le mouvement des indignés. C'était en 2008.
Le motif de base de la résistance, c'est l'indignation. Et je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. Quand quelque chose vous indigne, comme j'ai été indigné par le nazisme, alors on devient militant, fort et engagé.
Bon, je vois que je ne suis pas la seule à être très émue par cet extrait. L'indignation de Stéphane Hessel, qu'il a traduit dans un livre, « Indignez-vous », qui a fait le tour du monde. Et là, dans votre film, Gilles Perret, vous montrez le lien direct entre l'histoire, le présent, le futur, parce que c'est ça qui vous intéresse.
Oui, bien sûr, parce que ça m'intéresse, parce que aussi tous ces anciens résistants avec qui j'ai eu quand même énormément de chance de passer du temps et de travailler, de discuter, bien c'est ce qui nous pousse à faire ces anciens résistants. C'est-à-dire que quand on discute avec eux, on parle jamais du passé, on parle quasiment jamais des faits d'armes. Pourtant, c'est comme ça qu'on nous a raconté l'histoire de la résistance. On parle toujours d'aujourd'hui, demain, ces valeurs-là. Il faut les réactiver, il faut maintenir la flamme, il faut y aller maintenant parce que nous on est vieux et il faut prendre le relais. Donc voilà, moi j'ai entendu ça. Et je me sens aussi, enfin c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais un peu investi de cette mission-là parce que j'ai eu un rapport d'amitié avec eux et je pense qu'eux tenaient à ce que ce film existe. Et donc du coup maintenant il faut porter aussi ça parce que c'est par là que passera le salut à mon avis, sinon ça risque de mal finir quand même notre histoire.
Laurent Douzou, que pense l'historien que vous êtes de cette lecture éminemment politique du CNR proposée par Gilles Perret ?
Elle me va bien, je prononce pas sur le fond, on a des désaccords, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il se soit pas contenté de faire un joli documentaire sur l'exemplarité d'un programme qui aujourd'hui ne voudrait plus rien dire. Voilà. Et donc, dans les avant-premières, il y a souvent des critiques sur le fait qu'il y a deux registres. Il y a le registre de l'histoire, on raconte la genèse de ce programme, ce qu'il a voulu dire, etc. Et puis ensuite, on passe à nos jours et aux politiques. Et j'en dis au fond, là, mais qu'est-ce que c'est deux registres différents. Mais Ken Loach, dans l'esprit de 1945, fait exactement la même chose. Et je crois que on peut discuter du film, on peut discuter des positions qu'il soutient, mais en tout cas, il est à mon avis très précieux parce que il nous confronte à ce qu'est un héritage et à ce qu'on en fait. Donc là, on peut ensuite être en accord ou en désaccord, mais en tout cas, il laisse pas reléguer dans un coin d'un grenier un très beau programme qu'on admirerait et qui n'aurait aucune signification.
Merci Laurent Douzou. Et j'invite nos auditeurs à vous lire dans la collection Découverte Gallimard, La Résistance, une morale en action. Merci également Gilles Perret d'avoir choisi RFI pour offrir 15 DVD de votre film. Nos chers auditeurs doivent répondre à la question suivante. Quel est le nom du programme du Conseil National de la Résistance? Nous attendons vos réponses à l'adresse suivante marche.monde@rfi.fr, également sur notre page Facebook. N'oubliez pas de podcaster cette émission réalisée par Sophie Janin. C'est la vôtre.
Ma résistance tendrait à demander, exiger que la collectivité nationale, qui en a les moyens, élabore des projets d'avenir et une politique d'avenir.
La gravité de ce que nous avons à faire est évidente. Il faut simplement que les gens le prennent au sérieux et ne se disent pas « moins les gouvernements interviennent, mieux ça vaut, les marchés vont tout faire ». C'est l'idéologie néolibérale qui est en question et qui actuellement doit être combattu par les citoyens eux-mêmes.